Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises lorsque je me trouve ici, il y a certainement une bénédiction un tout petit peu plus grande pour celui qui apporte le message que pour ceux qui l'écoutent. Déjà, parce que nous, on a passé beaucoup plus de temps à méditer ces textes. Deuxièmement, parce qu'on est souvent imparfait dans la façon dont on va vous transmettre ce qu'on a à transmettre. Mais non, je crois que c'est véritablement une bénédiction de pouvoir, dans un sens, méditer la parole de Dieu, redécouvrir des textes que l'on a connus depuis très longtemps, et puis de se dire à quel point ils sont extrêmement riches et extrêmement à propos lorsqu'on les remet un tout petit peu dans le contexte dans lequel on vit. Et moi, je dois reconnaître qu'il y a 15 jours, lorsque Pierre et moi, on parlait de l'homme et de la création, et que lorsque j'avais simplement expliqué un tout petit peu que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé aussi homme et femme, ben ça m'a arrêté un tout petit peu dans mes traces. D'être absolument émerveillé de se dire à quel point le Seigneur, au sein de sa création, avait tout créé, et puis arrive à un moment ultime où il crée ce qui est très bon, qui est l'homme et la femme. Et non seulement parce que l'individu, l'être humain, est quelqu'un d'extraordinaire, mais aussi parce que là, au sein de la création, le Seigneur a créé l'union conjugale entre un homme et une femme. Alors, est-ce que j'ai été un tout petit peu ému par le fait que moi-même je suis marié? Est-ce que je suis ému par le fait qu'au bout de quelques dizaines d'années, je me rends compte que peut-être je ne vis pas tout ce que le Seigneur a voulu dans mon mariage? Mais simplement de me dire, de m'arrêter un moment pour regarder cette création et de contempler la perfection de ce que le Seigneur a fait, je me suis dit, ça vaut la peine de continuer à creuser un tout petit peu ce sujet avec vous ce matin, parce qu'il n'y a pas que dans la Genèse que l'on parle de l'union conjugale. Et ce matin, j'aimerais pas seulement parler pour nous qui sommes mariés, j'aimerais parler pour vous qui fréquentez peut-être pas encore, mais qui fréquenterez peut-être un jour. Parler pour vous qui peut-être vivez une relation maritale qui est heureuse, paisible. Mais peut-être pour vous qui, derrière peut-être des portes fermées, derrière un cœur qui ne se montre pas, souffre quand même. Parce que peut-être cette union n'est pas tout à fait celle à laquelle vous aspiriez, ou peut-être après un certain nombre d'heures de vol, elle s'est atténuée un petit peu. Et le texte que j'aimerais lire ce matin, qui servira à cela, se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, qui est cet autre grand texte dans l'Écriture qui nous parle du mariage. Rémi, si tu peux le projeter, s'il te plaît. L'apôtre Paul écrit... Et il dit, à partir au chapitre 5, à partir du verset 1, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Je saute au verset 15. « Faites donc bien attention à la façon dont vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. On cite souvent ces versets à propos de la femme et du mari lorsqu'on prêche à propos du mariage. Et c'est certainement l'un des textes qui est le plus détesté de l'apôtre Paul. Le problème, c'est que Pierre, il dit un peu la même chose, dans la première épître de Pierre aussi. Mais une des choses extrêmement importantes dans ce passage, et c'est la raison pour laquelle je l'ai commencé au verset 1, c'est qu'il faut le remettre absolument dans le contexte. Et je ne parle pas ici d'un contexte socio-culturel, je parle d'un contexte biblique, là où l'apôtre Paul l'a placé et comment il en a parlé. Et la première chose que j'aimerais relever, qui va contraster avec ce que je disais il y a 15 jours par rapport à la beauté de la création, c'est ce que nous lisons là à partir du verset 15. Rémi, si tu peux remonter, je crois, au premier écran. « Faites donc bien attention à la façon dont vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Les temps sont mauvais. Il faut racheter le temps. Et s'il y a un des éléments ou un des aspects de notre vie aujourd'hui pour lesquels les temps sont mauvais, c'est bien pour l'union conjugale et l'union maritale entre un homme et une femme. D'accord ? Aujourd'hui, en démarrant simplement avec des chiffres, près de 53% des mariages en France termineront par une séparation. Et là, je ne parle pas encore des pacsés, parce qu'en fait, les pacsés, c'est relativement récent. Mais ces relations entre les hommes et les femmes, lorsqu'on les mesure en termes de mariage, près de 53%, 54% de ces mariages termineront dans une forme de séparation. Et toutes ces séparations ne sont pas nécessairement bien heureuses. Quelques points seulement de ces divorces, ce sont des divorces à l'amiable, où le couple, lui, mais généralement, ça se termine avec beaucoup d'amertume et beaucoup de difficultés. Et le mariage aujourd'hui et notre relation entre un homme et une femme sont soumis à de nombreuses pressions qui conduisent non seulement à de nombreuses séparations, comme je l'ai dit, mais certainement à l'intérieur même des couples qui préservent les formes, il y a un certain nombre de divorces émotionnels. C'est-à-dire des gens qui continuent à vivre ensemble, mais qui en même temps n'arrivent plus à s'entendre ou ne s'entendent plus et ne trouvent plus dans cette relation ce que le Seigneur a voulu dès le départ. Et ce qui rend la chose beaucoup plus difficile aujourd'hui, c'est que les normes sociales que nous regardons autour de nous disparaissent aussi. On n'a pas de point de référence aujourd'hui. Preuve en est, c'est qu'on vient de voter quelque chose qui redéfinit complètement le mariage. Il y a mariage, il y a Pax, il y a vivre ensemble, il y a toutes sortes de choses. Nos normes, nos points de référence sont en train de disparaître, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment à quoi se raccrocher. Alors pour nous qui avons été élevés peut-être dans un endroit où il y a un certain nombre de normes, ça nous aide à trouver nos repères. Mais pour un certain nombre de jeunes qui grandissent dans le monde aujourd'hui, je me raccroche à quoi ? Et quelles sont mes références ? Et aujourd'hui, on ne s'émeut plus qu'un couple soit séparé ou divorcé. Si, ça fait mal si on connaît la personne. Mais si quelqu'un se présente et sur sa fiche d'état civil dit divorcé, bon, divorcé, comme vous êtes marié, comme vous êtes célibataire. Et nos normes sont en train de changer. On est en train de réinventer la famille, bien sûr, il le faut. Mais une famille recomposée, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on retrouve un peu ces petits dans tout cela ? Comment est-ce qu'on réétablit nos relations ? Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'essayer de recomposer une famille, mais on est en train de définir de nouvelles normes qui créent parfois plus de confusion qu'autre chose. Et il est fort intéressant que certains théologiens réformés en ce moment sont en train d'interpeller le gouvernement pour lui dire « Vous devriez en fait revenir sur le Pax parce que le Pax ne convient pas en fait à la relation entre l'homme et la femme. Et il faudrait revenir là-dessus, parce qu'on est en train de créer de la confusion. L'autre chose qui nous crée aussi des problèmes dans le mariage aujourd'hui, c'est que notre monde vit dans un état où on dit l'auto-réalisation personnelle et individuelle, c'est ce qui compte. Et on cherche simplement l'individu. Tu as droit à ton travail, tu as droit à tes loisirs, tu as droit à ta propre réalisation, tu as droit à ton propre compte en banque, tu as droit à ton propre vote. Et on est en train de plus en plus, pour poser dans un sens les droits égaux à tout le monde, mais en train de distendre les liens qui peuvent exister entre un homme et une femme. Alors ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de dire que la femme ne vote pas et qu'il n'y ait qu'un compte en banque avec la signature que par le mari. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de tellement pousser notre accomplissement personnel et individuel que le mariage devient en fait serviteur de cette réalisation individuelle plutôt que de trouver cette réalisation mutuelle et complémentaire entre les deux conjoints. Mais non seulement il y a les normes qui ont changé, mais il y a aussi des circonstances qui ont changé. Je veux dire, depuis le XXe siècle, on est quand même dans l'histoire de l'humanité presque les générations qui vivront le plus longtemps en couple. Hein. Je veux dire, avant, on se mariait relativement jeune, mais l'espérance de vie étant relativement courte, on vivait 15 ans, 12 ans, 15 ans, peut-être 20 ans en couple. Moi, j'ai encore toutes mes dents, j'arrive encore à marcher. Ça fait 34 ans que je suis marié. Mais quand on regarde ça de façon très pratique, qu'est-ce que ça signifie de vivre avec la même personne des décennies durant? Alors certains d'entre vous qui avez vécu ça, vous dites, ouais, je l'ai fait. 50 ans, 60 ans, oui, c'est possible. Mais il n'empêche que c'est une réalité qui fait que de durer dans le temps, c'est un défi supplémentaire pour le mariage aujourd'hui. L'éclatement un petit peu de nos familles, c'est-à-dire où tout le monde, les générations vivent de façon différente, où les jeunes partent relativement tôt, vivent dans des cercles sociaux un petit peu différents, fait que là aussi, la famille devient parfois un lieu de stress. Et ce stress est partagé par les parents, et si les parents n'arrivent pas à le gérer ensemble, c'est quelque chose qui va commencer à affecter et qui peut affecter la vie des enfants, la vie des parents et la vie du couple. Et aujourd'hui, nombre de couples vivent dans un sens, un certain nombre d'années lorsque les enfants sont adolescents ou sont en train de se chercher dans la vie, centrés autour de leurs enfants, mais dans la préoccupation de qu'est-ce qui va arriver à mes enfants. Et je ne dis pas que c'est anormal, mais c'est quelque chose qui met pression sur les enfants. L'éclatement de nos cercles sociaux. Moi, je vis dans un milieu toute la journée en semaine qui s'appelle l'UNICEF, que vous ne connaissez pas. Je suis ici le dimanche et je suis chez moi à la maison et je vis encore dans d'autres cercles. J'ai aussi mes réseaux sociaux sur Internet, des gens avec qui j'interviens et avec qui je suis en relation. J'ai 4, 5, 6 milieux différents qui ne se recouvrent par tous, mais qui tous, en fait, appellent mon attention et tous dans lesquels je peux me placer et interagir avec des personnes sans nécessairement interagir avec les autres. Et avec Isabelle, on se disait encore dernièrement, John, c'est quand même extraordinaire, tu arrives quand même à être en contact avec des gens via Internet qu'Isabelle ne connaît pas. Tout cela, encore, participe à tirer sur notre relation conjugale. Et on peut donc se demander, mais comment est-ce que le mariage peut durer dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui ? D'accord ? Et là, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas simplement en train de dire comment est-ce que le mariage devant monsieur le maire peut tenir. Ça, on peut le faire. La preuve, c'est qu'on vient de voter une nouvelle forme de mariage. On peut l'inventer si on veut. Ce que je veux dire, c'est comment est-ce que le mariage, dans cette relation conjugale que le Seigneur a voulu, peut encore durer. Qu'on soit marié devant monsieur le maire en France, qu'on soit marié devant monsieur le pasteur aux États-Unis, qu'on soit marié d'une autre façon dans un autre pays, quelle que soit cette forme de mariage, mais comment est-ce que cette relation peut durer entre un homme et une femme ? Mais ce matin, si j'en parle, C'est pas tellement que je veux déplorer ce qui se passe dans le monde. Dieu est assez grand pour s'occuper dans le monde de ce qui se passe là. Mais la raison pour laquelle je voudrais en parler, c'est parce que, de nouveau, je contemple ce que le Seigneur a fait et qu'il nous raconte dans le livre de la Genèse. Je veux émerveiller d'Isabelle de la même façon qu'Adam s'est émerveillé lorsque Dieu lui amena Ève. Je veux être, dans ma relation avec Isabelle, l'objet de cette bénédiction créationnelle que le Seigneur a prononcée sur Adam et Ève. Il n'est pas dit simplement qu'il les créa, il a dit qu'il les créa hommes et femmes et il les bénit. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la création que le Seigneur nous a donnée, qui est là pour nous dans toutes nos relations que nous pouvons avoir avec notre femme ou avec notre mari. Et l'apôtre Paul va reprendre cela. Et c'est pour ça que je voudrais m'attarder sur ce texte. Je veux connaître cette relation avec Isabelle telle que le Seigneur a voulu qu'elle soit. Lorsque le Seigneur a créé Adam et qu'il s'est rendu compte et qu'il a dit « il n'est pas bon qu'Adam soit seul, il n'est pas bon que John soit seul ». Et il a créé cette relation pour que l'homme puisse être, et je dis l'homme dans le sens être humain, puisse être complet. Et c'est pour cela que le Seigneur est allé jusqu'à dire après, même si tu es né d'un père et d'une mère, tu quitteras ce père, tu quitteras cette mère et tu t'attacheras à ton conjoint. Parce que c'est là et avant tout que le Seigneur veut bénir, veut enrichir et veut nous faire découvrir ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et de ce qu'il a créé lorsqu'il a créé l'homme. Il y a quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur nous a mis là dans le livre de la Genèse et que Paul va reprendre. Et je voudrais que ce matin, on puisse tous être déterminés à se dire « je voudrais retrouver cela ». Parce que simplement pour rappel, ce que je vous y disais la dernière fois, c'est que la richesse de la création, la beauté de la création, se trouve aussi dans sa diversité. C'est parce que deux pierres ne sont pas les mêmes, c'est parce que deux êtres humains ne sont pas les mêmes que la richesse, que la création est belle et riche. C'est parce que Dieu créa l'homme, homme et femme, qu'il y a cette beauté de la relation. Il ne peut pas y avoir relation si c'est deux personnes absolument identiques. Et c'est dans ces différences-là que le Seigneur nous a créés. Et là, comme je le disais la dernière fois aussi, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, dans la création, nous connaissons quelque chose que personne, aucun animal, ni même les anges, qui à certains égards sont supérieurs à nous, ne connaissent. C'est la relation avec nos conjoints, c'est le pouvoir être un couple, c'est le pouvoir marcher le long de la vie en étant l'un à côté de l'autre, en étant l'un pour l'autre, à trouver dans nos différences des choses qui se complètent, qui se multiplient, et non pas des choses qui s'opposent nécessairement. Et là, j'aimerais vous renvoyer peut-être à la fin de ce culte, à retourner chez vous et lisez le Cantique des Cantiques. Quand est la dernière fois que vous avez lu le Cantique des Cantiques? Vous savez que ça existe dans la Bible, le Cantique des Cantiques? Hein? C'est un petit livre qui parle de l'amour, l'amour passionnel. Très passionnel. Et beaucoup de théologiens, on se dit, pourquoi est-ce que ce livre s'est retrouvé dans le canon des Écritures? Ben certainement parce que Dieu, à un moment, il a voulu que on trouve ce feu ardent l'un pour l'autre dans la relation. Mais c'est aussi parce que c'est une image de la relation, on y reviendra, que Jésus entretient avec son Église. Et relisez ce livre, et relisez à quel point, si le Seigneur a voulu qu'il soit dans l'Écriture, c'est un livre qui nous met notre amour à feu, et à, non pas à sang, mais à feu. Relisez le livre de Ruth. Regardez un petit peu l'attitude de Boaz vis-à-vis de Ruth. L'attitude qu'il a en tant que fiancé et ensuite en tant qu'époux. Regardez Ruth elle-même et la façon dont elle interagit aussi avec Boaz et cette relation qui se tisse entre tous les deux. Relisez le Proverbe 5, relisez le Proverbe 31. Et là, vous retrouverez à quel point le mariage est quelque chose que Dieu non pas idéalise, mais continue à mettre comme quelque chose qu'on devrait rechercher et aimer. Et dans des textes comme le Proverbe 5, que beaucoup de commentateurs sont tout à fait d'accord que ça renvoie à l'amour quasi charnel entre un homme et une femme, relisez le Proverbe 5 et vous, mari, profitez de la femme de votre jeunesse. Le mariage tel que Dieu l'institue ne contient pas, et ça c'est exprès pour mon ami Clément, d'obsolescence programmée. Il n'y a pas dans le mariage une nécessité pour que cette relation se désintègre. Elle est soumise à pression, mais le Seigneur n'a pas voulu que tout ça s'use et s'étiole après que la passion passe. Au contraire, c'est quelque chose qu'il a voulu de façon durable et qui accompagne le couple toute sa vie. Ainsi donc, en nous tournant vers ce texte ici, vous allez me dire, bon, c'est bien joli, mais la passion, elle s'atténue quand même. Où est-ce qu'on trouve notre force pour continuer à avancer? Et c'est pour ça que j'ai voulu lire cet ensemble, ce texte, tout ce chapitre 5, qui dans un sens, nous on pense souvent qu'il parle du mariage, mais le mariage n'est qu'un des éléments dont parle le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Parce que dans ce chapitre, il y a deux expressions que je voudrais simplement faire ressortir ce matin et vous les laisser, parce qu'il me semble que ce sont celles qui nous permettent, dans un sens, de continuer à vivre notre mariage et surtout de continuer à trouver toutes ces richesses que ce mariage peut continuer, que ce mariage peut contenir. Et là, au verset 1, et c'est toute l'introduction de tout ce chapitre, soyez les imitateurs de Jésus-Christ. Il y a quelque chose dans la vie qui fait qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas vivre la bénédiction du Seigneur ou connaître la bénédiction du Seigneur si nous ne nous sommes pas les imitateurs de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas vivre notre vie spirituelle indépendamment du Seigneur. Il faut rappeler de cette image où nous sommes dans un sens des sarments qui sont accrochés au cep, et cette image où la sève transparaît, c'est que nous avons quasiment une union mystique avec Jésus-Christ qui fait que nous ne pouvons pas vivre hors de lui. Et tout ce chapitre 5 et où il va parler du mariage part exactement de la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être l'imitateur de Jésus-Christ si nous voulons découvrir toute la richesse et la bénédiction dans notre relation conjugale. Et là, il nous est donné tout de suite cette explication. Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. C'est la tonalité qui est donnée à tout ce chapitre. Nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce que l'apôtre Paul va faire. Et lorsque nous pensons à ce qui est dit à propos du mariage, d'un côté, femme, soumettez-vous à vos maris, et non pas mari, soumettez votre femme. Ou quand il est dit, mari, aimez votre femme, ça renvoie clair et net à ce que Jésus-Christ lui-même a fait pour nous, non seulement son sacrifice, mais ses paroles où il dit, mais en fait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ou lorsque lui-même, de façon répétée dans l'évangile de Jean, va dire « Je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père. » Et lui-même, au sein même de la Trinité, se soumet à son Père. Nous avons du mal à lire tous ces textes en dehors de la malédiction où la soumission à l'autorité du mari est perçue comme une espèce de domination du mari. Et j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'efforts pour essayer de se sortir de comment est-ce que la femme peut se sortir d'être en dessous du mari. Mais on ne peut pas le faire si on le lit autrement que comment est-ce que le Christ lui-même s'est soumis à son Père au sein même de la Trinité, et comment est-ce que le Christ a aimé son Église tout en étant le chef. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, Paul y dira à une autre occasion, il dit que votre attitude, la façon de vous comporter, la façon de voir les choses, soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui était divin, de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. C'est dans cette attitude que se trouve le véritable amour envers son épouse. C'est dans l'attitude que Jésus avait lorsqu'il est venu sur terre, de soumission à son Père, que l'épouse peut trouver le modèle auquel elle est appelée pour vivre. Et cela m'amène à cette deuxième expression qui est utilisée dans les deux versets. Rémi, si tu peux descendre. Tu peux passer encore un écran. Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il n'y a qu'une façon que nous pouvons découvrir quelle est notre place et notre complémentarité, c'est lorsque nous regardons le modèle que le Seigneur a été pour nous. Le Seigneur ne me demande pas d'aimer Isabelle simplement avec tous mes sentiments et avec tout ce que moi je peux inventer, etc. Il me demande d'aimer Isabelle comme j'aime mon Seigneur. Et de trouver dans cette relation que j'ai avec mon Seigneur la force, l'exemple, la passion, la détermination, le refus de la résignation, l'espérance contre toute espérance. C'est comme ça que je vais pouvoir et que je peux trouver et être soutenu jour après jour dans l'amour que je porte à ma femme. De même, elle-même, lorsque il y a ces questions de soumission, elle les trouve non pas dans le fait que moi je suis un chef génial, le plus beau de tous les mecs, le plus intelligent, le plus fidèle. Je pourrais faire la liste, moi, de tous les griefs qu'Isabelle peut avoir envers moi et que je connais très bien. Mais elle ne trouvera jamais la force de pouvoir continuer à m'aimer dans une 34e année si elle ne tourne pas les yeux vers le Seigneur pour trouver dans son exemple ce qu'il veut nous laisser. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'on a, et moi j'ai souvent fait cette erreur, c'est qu'on a souvent cru que Paul, il utilisait l'image du mariage pour exprimer un petit peu ce qui se passait entre l'Église et Jésus-Christ. Et on s'est dit, bon, ben Paul, il a pris une image humaine pour essayer de parler de ça. Mais c'est complètement faux. C'est l'inverse qu'il faut regarder. C'est parce qu'il y a cet amour entre Jésus-Christ et son Église, entre le Créateur et l'homme, qu'il peut y avoir mariage. Et il y a cette relation absolument extraordinaire où Jésus va persévérer au travers des siècles avec son Église pour la présenter sans rides, sans taches, parfaite. Et c'est ça qui doit nous servir d'exemple, nous, pour vivre notre relation dans notre couple. Chers amis, d'un côté, il y a la beauté de la création, de ce que le Seigneur a voulu. Et ça, nous ne pouvons pas le contester. C'est ce que le Seigneur nous dit qu'il a voulu. Tout au long de l'Écriture, il va nous donner des exemples de couples. Il va nous parler du mariage. Il va parler même de sa relation avec le peuple d'Israël comme une relation maritale. Et lorsque le peuple d'Israël se détournera, il dira « j'ai mal comme un époux dont la femme est adultère ». Tout le livre d'Osée va être bâti autour d'une relation avec une femme qui tourne mal. Et tout ça pour aller dire « moi, Dieu et mon peuple, j'ai mal comme vous avez mal lorsque vous êtes des maris et des femmes et que les choses ne vont pas ». Et nous avons la création, mais ensuite nous avons l'autre chose absolument extraordinaire que nous ne pouvons pas contester non plus, qui est cet amour que le Seigneur a pour son Église. Et si nous avons besoin d'une autre référence aujourd'hui, Nous devons prendre cette référence. C'est qu'aujourd'hui, indépendamment de ce que nous pouvons penser, Jésus aime son Église et Jésus est en train de persévérer, il est en train de la présenter devant lui en temps et en heure comme étant belle, parfaite, sans rides, sans taches. Et mes chers amis, il nous faut ces deux points de référence pour pouvoir continuer à vivre notre mariage. Nous ne sommes pas appelés à être seuls dans nos relations maritales et à nous débattre avec nos émotions et simplement avec l'autre personne. Le Seigneur, c'est lui qui a amené Ève à Adam. C'est lui qui vous a apporté votre conjoint. Et le Seigneur souhaite être là au milieu, non pas simplement pour vous dire « voilà, encore une fois, tu as complètement foiré ». Non, mais souviens-toi de ce que j'ai voulu, ces choses magnifiques que j'ai voulu lors de la création, mais regarde aussi à ce que je suis en train de faire avec l'Église. Oui, par moments l'Église, elle ne nous inspire pas beaucoup. Mais ça ne fait rien, le Seigneur continue lui à être fidèle. Et je voudrais terminer sur une note qui élargit encore plus. C'est de dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons quasiment rien vivre dans notre vie en dehors de notre relation avec le Seigneur. Nous ne trouverons jamais la force, nous ne trouverons jamais la sagesse, nous ne trouverons jamais ces idées qui sont différentes de celles du monde si nous essayons de nous débattre tout seuls. En dehors de ce que Dieu, lui, nous enseigne et nous dit et nous promet de nous donner. Et comme il nous a donné le Saint-Esprit qui agit en nous pour nous transformer, il veut transformer aussi notre attitude à l'égard de notre mariage et de notre relation. Ah, le Seigneur est réaliste, lui il n'est pas choqué du fait que nos mariages battent peut-être quelquefois de l'aile. Il sait très bien que les moments sont difficiles avec des ados. Il sait très bien que le chômage peut tirer dans un sens sur une relation. Il sait très bien qu'avec le temps, les choses s'usent et parce que ce monde est soumis au péché. Mais il nous a donné son Saint-Esprit et sa parole et son exemple pour nous dire, tu peux continuer à espérer, tu peux continuer à cultiver cette relation. Et que même s'il y a des choses qui sont parfois difficiles et tout ça, moi, je t'accompagne là-dedans. Et je t'accompagne parce que c'est le sommet de la création. Et je t'accompagne parce que c'est cette relation-là que j'ai avec mon Église. Et que par votre mariage, vous êtes dans un sens l'image, l'effigie de Dieu sur la terre. Pour montrer à toute la création et à tous les hommes que Dieu est un grand Dieu et que Dieu est un Dieu qui aime son Église. Chers amis, ce que je voulais ce matin, c'est non pas rappeler aux femmes que vous devez vous soumettre à votre mari, ni aux maris que vous devez aimer votre femme. L'apôtre Paul, il l'a certainement fait exprès, parce que c'est les deux trucs qui sont les plus difficiles pour les hommes et les femmes. Il y a plein d'autres choses dans le mariage. Mais là, il a parlé de deux choses qui sont extrêmement difficiles. Nous, les mecs, on a tendance à dominer. On a toujours ce petit relent lorsqu'on lit « Femme, soumettez-vous à votre mari » en se disant « C'est moi le chef ». Et je comprends très bien comment ça peut être difficile pour une épouse de lire ces textes. Femme, soumettez-vous à votre mari. Mais la seule façon de les comprendre tels que le Seigneur les a voulus, c'est dans la beauté et l'ordre de sa création. Et c'est dans la beauté et la majesté de la relation entre Jésus-Christ et son Église. Et si aujourd'hui vous cherchez qu'est-ce qui va continuer à vous faire tenir dans votre mariage, plongez vos regards là-dedans. Plongez vos regards là-dedans. Et c'est là où vous trouverez une dimension supplémentaire pour votre relation et qui vous permettra de remettre les choses en place aussi. Peut-être avec de l'aide de l'extérieur et tout ça, mais ça sera ce cadre encore plus vaste et plus beau, plus majestueux, plus durable. Parce que nous avons un grand Dieu. Et un Dieu qui va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et la preuve en est juste ici. Moi, ça m'aide beaucoup dans ma relation avec Isabelle. Non pas qu'il faut me trouver un pis-aller en me disant « bon, très bien, il faut que je continue à l'aimer. » Donc... Non, ça donne une dimension et un souffle nouveau. Parce que je me vois, moi, dans le jardin d'Éden, avec le Seigneur qui m'amène Isabelle et dit, tiens, voilà quelqu'un de bien pour toi. Et de regarder ma femme et de dire, waouh ! Chers amis, c'est la bénédiction qui repose sur vous. C'est la bénédiction que le Seigneur veut vous donner. Ne baissez pas les bras. Ouvrez les yeux. Les temps sont difficiles. Mais le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit par lequel il peut opérer cela en nous. Parce que c'est sa volonté. Et parce que c'est l'image de notre réconciliation avec lui lorsque nous serons réunis avec lui plus tard. C'est que cette épouse se rassemblera avec son époux. Et ce sera les festins de l'agneau. Waouh ! Je vous invite à un moment de prière. Père éternel, moi je voudrais te glorifier ce matin et te remercier parce que tu m'as tellement parlé par ces textes. Tu as donné encore un nouveau souffle, Seigneur, à ma relation avec Isabelle. Un désir plus grand, Seigneur, encore de connaître cette bénédiction que tu nous as promis. Mais Seigneur, je voudrais aussi ne pas simplement dépendre de mes propres sentiments, dépendre de mon savoir-faire, mais je voudrais m'inspirer, Seigneur, de ce que ta parole nous enseigne dans la création, mais aussi dans ton amour pour l'Église, dans ce que tu as fait pour elle. La façon, Seigneur, dont toi, en toute liberté, tu as pu te soumettre à ton Père lorsque tu es venu sur terre pour faire sa volonté. Non pas comme un esclave, mais parce que tu savais que c'était bon et la meilleure chose à faire. Seigneur, tu es venu aussi et tu as aimé. Aimé au-delà des apparences, aimé au-delà des comportements. Aimé même lorsque l'autre n'était pas aimable. Seigneur, tu l'as fait et tu es allé jusqu'au bout. Même lorsque tes propres amis se sont défilés. Seigneur, que cela reste dans notre cœur et que nous puissions repartir tous le cœur joyeux de ce que tu as en réserve pour nous. Fais-nous du bien, nous te prions, et garde-nous toujours en toi. Au nom de Jésus, amen.
Merci John, en t'écoutant, j'étais un petit peu impressionné, je pensais à mes parents qui dans un mois et demi vont avoir 71 ans de mariage. Et je voudrais témoigner que s'il n'y avait pas eu Dieu dans leur vie, à chaque moment, à chaque instant, c'est en tout cas ce qu'ils m'ont laissé, s'il n'y avait pas eu Dieu, il y aurait pu avoir des problèmes. Hein. Tellement ils sont différents aussi. Mais c'est intéressant d'aller plus loin et de réfléchir comment Dieu nous aime les uns les autres et comment il aime l'Église. C'est peut-être ça le plus profond du message après une semaine de Saint-Valentin. Pour faire la part des choses aussi. Merci en tout cas. Merci pour ce temps de louange aussi béni qu'on a eu ce matin. J'aimerais partager avec vous les annonces. On a une semaine un petit peu chargée, enfin en tout cas avec des choses importantes. Demain soir, il y a deux réunions. Ici, il y a une réunion d'abord du Conseil où on doit travailler sur la préparation de notre célébration du 24 mars. Vous savez que le 24 mars, on a une journée spéciale ici où on remerciera pour notre bâtiment, pour les 30 ans de ce bâtiment, de cette chapelle. Et donc, on a une réunion. Vous avez reçu, il y a plusieurs personnes ont reçu hein, des mails. Pensez bien à confirmer que vous êtes là, ça serait bien, ça serait intéressant aussi. Et puis, en même temps, il y a la commission travaux qui travaille demain soir aussi, qui avance sur le projet qui vous sera présenté ultérieurement, qui avance bien. Voilà deux choses. Donc, important. Mardi, Assemblée Générale ici à 20h. Je rappelle que si vous ne venez pas, essayez, s'il vous plaît, de faire passer des pouvoirs, soit à quelqu'un en qui vous avez confiance, soit vous pouvez les faire passer au Conseil aussi, il n'y a pas de souci, pour qu'on puisse valider tous les votes avec un quorum qui soit suffisant. Voilà, c'est à 20h mardi, et non pas 20h30. C'est tout pour la semaine, je crois, mais c'est déjà pas mal. Ça va déjà faire deux soirées qui sont un petit peu lourdes, un petit peu chargées, on va dire, pas lourdes, mais chargées. Je donne des infos pour des dates ultérieures. Le 26, mardi 26, étude biblique des... Merci. C'est juste. Ah, mais c'est juste, c'est juste. Bon, c'est pour voir si tu suis, Philippe. Merci, Philippe. 21, il y a la pastorale, c'est juste. Il y a une rencontre porte ouverte à Saint-Genis, jeudi. Je n'ai pas pensé de l'annoncer, c'est vrai. Samedi, groupe de jeunes. Dimanche, notre culte. Ça coulait de source, quand même. Merci, Philippe. Alors, je reviens un peu plus loin, ce qui n'est pas dessus. Donc, parce que c'est la semaine d'après, le 26, donc l'après-midi, mardi 26, c'est public des aînés, ici. Et puis après, c'est tout pour les annonces. Il n'y a pas d'autre chose que j'aurais oublié. Voilà. Alors, après, j'ai d'autres infos à vous donner ultérieurement. D'abord, je vais laisser la place à Emmanuel. Tiens, c'est parfait. Ça, je ne t'oublie pas.
Qui d'entre vous aime les enfants ? Oh, bah, j'aurais pensé que ça serait plus unanime. Hein ? Qui d'entre vous aime les enfants ? Au fond, il y a des papy-mamies, vous aimez pas les enfants ? Alors ça tombe bien, j'ai du boulot pour chacun d'entre vous. De 14 à 99 ans, au-dessus, on vous dispense. C'est parti pour le club. Merci Pierrick, il a préparé un flyer qui sera prêt d'ici une semaine, mais il a surtout, si vous allez sur le site de l'église, il y a un petit onglet qui s'appelle Club d'été, et vous pouvez cliquer sur ce club, et chaque enfant peut s'inscrire directement pour la semaine du club d'été qui aura lieu du 15 au 19, et il y a aussi une petite... juillet, 15 au 19 juillet, mais les gens le savent parce que normalement ils ont déjà tous posé leurs vacances pour le 15 au 19. Et en plus, il y a un autre petit onglet qui s'appelle bénévole. Vous pouvez cliquer sur cet onglet-là et vous verrez, il y a plusieurs choses. On a besoin de moniteurs, aides-moniteurs, de gens pour préparer la salle, pour le chant, toutes sortes de choses, et il y a aussi pour la prière. Donc, les gens qui peuvent pas être là, vous pouvez cliquer, bénévole, pour la prière. Comme ça, au moins, on sait qui est impliqué et on pourra vous donner des nouvelles de l'avancement du club. Je voulais juste dire, le premier bénévole qui s'est inscrit, c'est Mike. C'était le premier. Alors, on veut vraiment le féliciter. On a déjà quatre enfants qui ont commencé à s'inscrire, donc les inscriptions sont, c'est parti. Faites-le savoir, faites-le. Ouais, c'est Florence qui a gagné. Faites-le savoir autour de vous. C'est vraiment à but d'évangélisation aussi. C'est pour nos enfants dans l'église, pour les enfants des autres églises, mais aussi pour des enfants qui n'ont jamais eu la chance d'entendre parler du Seigneur. C'est vraiment pour qu'ils puissent entendre aussi la bonne nouvelle. Ça sera limité à 199. Alors, dépêchez-vous, on prendra que les 199 premiers. Je voulais juste vous dire une dernière chose. Le 25 mars, on aura une réunion avec toutes les personnes qui veulent nous aider pour l'organisation. Le 25 mars à 20h30 ici à l'église.
Voilà, vous pouvez déjà, même si vous n'êtes pas inscrit, commencer à prier pour ça. Sérieusement, merci, Emmanuel. On est dans les sujets de prière. Pensons, c'est vrai, on en a parlé ce matin, mais pensons à prier pour Hélène. C'est important qu'on puisse la... C'est sympa la musique comme ça, pour les annonces. Pensons à prier pour Hélène, que Dieu la garde, la bénisse. Pensez à écrivez-lui un petit mot, appelez-la un petit coup. Je crois que ça, elle a besoin de notre affection, de notre amitié. Continuons à penser à Jean-Michel, à Anna. On veut aussi continuer à prier pour que aussi Dieu la guide et dirige et soutienne. Puis j'ai plein de choses en vrac. Je vais vous donner un petit peu en vrac. On a fait une pétition dimanche. Vous avez été très très sensibles. Je voulais juste vous dire quand même, j'ai envoyé une enveloppe dimanche soir avec 32 feuilles dedans. C'était chouette. Je voulais vous remercier parce que c'était vraiment quelque chose de sympa. Je crois que c'est une bonne chose qu'on l'ait fait, que vous l'ayez fait en tant que personne individuelle. C'est chouette aussi. Peut-être aussi vous dire que vous avez été troublé ce matin, sûrement ici. Je pense que tout le monde a été troublé de ne pas trouver sa place. assez bizarre, hein, ces chaises comme ça. Simplement, on les a laissées comme ça après la cérémonie de Robbie. Et puis, ça vous permet de voir la salle mise aussi d'une autre façon, mais de façon légale. Alors, vous avez vu comme c'était absurde, parce que là-bas, au bout, on n'arrive pas à sortir. Hein. Mais on a le droit à mettre, vous voyez, on a le droit à mettre 8 chaises à la queue leu-leu. Là, vous avez aussi l'absurdité des fois de la loi. Hein. Mais ce que ça vous fasse réfléchir dans l'autre sens, c'est que vous ne venez pas à l'église pour vous asseoir à une place, vous venez pour Dieu. Et Dieu, il parle autant là-bas dans le coin que là, que là-bas. La même chose, hein. La sono, elle est pareille, là. Elle est directe. Il n'y a pas de les baffles. Donc voilà. C'était peut-être l'image. Oui, ça nous a troublés. Mais pourquoi est-ce qu'on est venu? Et si vous avez été troublé, essayez de réfléchir. Est-ce que votre trouble était plus grand que ce que Dieu avait à vous dire aujourd'hui? Et puis peut-être on rechangera, parce que c'est vrai que c'est pas pratique. On essaiera autre chose encore. Voilà, ça c'est une chose encore. Voilà, on a parlé de mariage. Écoutez, on a reçu un faire-part de mariage. Ça vous dit quelque chose si je vous dis Sylvia et Jérémy? Vous vous souvenez de Sylvia? Sylvia Pérez, qui est venue ici pendant tout un temps, amie avec Lydia. Eh bien, Sylvia se marie avec Jérémy en Alsace. Je mettrai au fond le 6 avril avec un verset, je vais le lire. Dios es poderoso, tu vas traduire aussi, para accomplir todos lo que promete. Et la traduction, je ne dois pas être bon en espagnol, moi. Ce que Dieu promet, il est puissant pour l'accomplir. Ah, c'est la réponse à notre message de ce matin aussi. Ce que Dieu promet, il est puissant pour l'accomplir. On veut se réjouir aussi avec Sylvia et Jérémy. Je mettrai au fond, là, le verset. Voilà. Encore vous rappeler que à toutes les personnes intéressées qu'on va mettre en place un parcours de baptême, donc une réflexion sur le baptême. Venez en parler à un des anciens, si vous êtes intéressé. On attend d'avoir, il y a déjà 2 personnes qui sont inscrites, on attend d'avoir encore quelques personnes pour décider d'une date, de comment le faire, à quel moment, avec les gens intéressés uniquement. On ne va pas fixer une date et que les gens ne puissent pas y venir ensuite. Donc venez un petit peu en parler avec les anciens. Voilà. Et puis encore une chose, on ne le fait pas régulièrement, mais il y a un anniversaire aujourd'hui. Un contron, Nathan, qui a 25 ans et toutes ses dents. Bon anniversaire, Nathan. Voilà, je vous invite à vous lever. Je vous lirai encore quelques versets. Je ne sais pas si vous avez essayé de lire les versets de la Bible à l'envers. J'entends pas le verset à l'envers depuis la fin, mais allez prendre le verset 25, puis le 24. Des fois, c'est intéressant de le faire. Et quand John a affiché son texte tout à l'heure, je voulais prendre le premier verset qui disait « Soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». Mais si vous remontez juste avant, vous savez, la coupure des chapitres dans la Bible, elle a été faite par Robert Etienne. Et elle n'est pas forcément, chronologiquement, ce n'est pas toujours facile. Alors avant le premier verset, il y a ceci. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Et puis si vous remontez, il y a encore d'autres versets, mais vous les lirez. Vous lirez le verset 31. Et puis le verset 30, celui qui est juste avant, « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ce sont les promesses que Dieu nous fait aujourd'hui. Et nous voulons nous réjouir en lui chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.